hyper important aussi ce rythme en radio. Ce qui m'amène pas à vous parler forcément de rythme, hein, Sarah, sur la radio, mais sur cette notion aussi, ce lien entre poésie radio, mots, texte et radio. Je voulais savoir un petit peu quel lien vous y mettiez dans cette activité radiophonique de podcast, de radio, de production de programmes et ce lien avec la poésie.
Oui, j'ai commencé par la radio, donc c'est mon métier de départ. Évidemment, le lien, c'est l'oralité. C'est dire les poèmes et non pas seulement les lire. C'est effectivement une question de rythme quand même, pour le dire. Et de comment on pose sa voix. Finalement, c'est la même chose. Quand on est sur scène, on a aussi une manière de poser sa voix qui est bien sûr différente que quand on parle aux gens. Je trouve aussi que l'audio... Moi, j'utilise beaucoup la radio aussi dans mes ateliers, justement, de transmission, on parlait de ça. Je l'utilise aussi parce que je travaille aussi un peu en théâtre. Donc, on essaye de faire des formes un peu de théâtre, radio, en utilisant... Voilà. L'audio, c'est infini. Il y a vraiment plein de choses à exploiter et qui sont encore en cours de... en recherche aujourd'hui, encore dans la création en général. Et je trouve que la radio apporte un petit supplément sans image, mais qui du coup est riche et dense, et voilà. Et c'est l'oralité en général, c'est ça. Avec la poésie, ça fonctionne bien, quoi.
Sarah Masson, accompagnée d'Emmanuel Campo et de Mélanie Leblanc, qui répondait aux questions de Nathalie et moi-même. On repart en musique avec un coup de cœur, c'est Lisette Lombé, Chloé Dutrèfle, Puisqu'il faut bien.
Puisqu'il faut bien un premier mot pour commencer chaque histoire. Puisqu'il faut bien un premier cri, même pour un personnage. Puisqu'il faut bien une première respiration, même sur le papier. Et puisqu'il faut bien un nom pour cette femme que voilà, tellement semblable à nous, tellement semblable à vous, tellement semblable à moi. Alors, nous appellerons cette femme Remontada. Entends, Remontada, comme tu n'es pas seule. Entends comme le public présent aujourd'hui murmure déjà avec moi ton nom. Remontada. Remontada. La remontada signifie la remontée, le retour. On parle de football, oui, encore et toujours parler de football. On parle des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en 2017 avec, d'un côté, l'équipe du FC Barcelone et de l'autre côté, l'équipe du Paris Saint-Germain. Au match aller, au Parc des Princes, on assiste à une victoire écrasante du PSG 4-0. Le match retour à Barcelone aurait donc dû être une simple formalité. En effet, il aurait fallu que le Barça l'emporte miraculeusement avec 5 buts d'écart pour prétendre passer en quart de finale. Flashback, nous y sommes, 8 mars 2017. 96 000 spectateurs dans le stade, un arbitre allemand, monsieur Dennis Aitken. Sur la pelouse, aucun round d'observation. Et après seulement 3 minutes de jeu, ouverture du score par Suarez et 1-0 pour le Barça. Il faut ensuite attendre la 40e minute de jeu pour voir tomber un second but. But du Parisien Kurzawa, mais but contre son propre camp. C'est 2-0 pour le Barça à la mi-temps. Puis, au retour des vestiaires, but de Lionel Messi sur pénalty. C'est 3-0 pour Barcelone, mais Paris revient à 3-1 avec un but de Cavani. Et là, à l'entame des arrêts de jeu, pure folie. 88e minute de jeu, but de Neymar, 4-1. 91e minute de jeu, but de Neymar, 5-1. 95e minute de jeu, but de Roberto, 6-1. Victoire finale de Barcelone, 6-1. Direction les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est ça, la remontada. Direction les quarts de finale et direction le dictionnaire Larousse aussi. En 2021, en plein confinement, 4 ans après ce match d'anthologie, Le mot remontada y fait son entrée sonnante et trébuchante en même temps que les mots influenceur, hyper-présidence, ultra-droite, zombifié, dégagisme, flexibilisation, polyamour, black bloc et féminicide. Remontada, remontée de score inattendu en football, et par extension, victoire inespérée quel que soit le sport, et par extension, retour au premier plan d'un homme politique après une longue traversée du désert, et par extension, pour nous, pas pour le dictionnaire, pas pour le terrain de foot, pas pour la politique, pour nous, remontada sera le prénom de notre héroïne. Il était une fois. Non. Elle était une fois. Remontada. Remontada.
Lisette Lombé. Et nous ne pouvions terminer cette émission sans un petit clin d'œil à notre chroniqueuse Sceaux, pardon, qui elle aussi a joué le jeu de la poésie.
Dans mon désert d'incertitude, de solitude, de différence, d'indifférence, j'ai appris à explorer l'intérieur des terres, m'y complaire en transhumance. Loin de la mer et des plages où s'exaltent mes congénères, un exil qui, au gré des liens d'affection et des déceptions, s'était avéré nécessaire. Sur les virages où je dois accoster pour te rejoindre, sentir la caresse de ta main, tu m'as fait découvrir des vagues douces de tendresse que mon corps accepte enfin. Comme la houle, tu agites mes sens et en moi déchaînes les éléments. Sur ton sable fin et chaud, je peux goûter le sel et les embruns. Et malgré cette tempête intérieure, dans ton paysage, tout est serein. Là, je me surprends à m'offrir à ton ressac, à vouloir naviguer tel un marin. Je veux voguer dans ton océan de bienveillance, sans peur, sans restriction. Sans compter le temps, je veux regarder le soleil se lever et se coucher sur ton horizon, voir le reflet de la lune sur tes eaux calmes, apaisées et profondes. Si tu le permets, plonger dans tes grands fonds, aux confins de ce nouveau monde.
Et pour nous quitter, juste un petit tour du côté des infos programmation. Ce soir, on vous invite bien entendu sur le deck du Cube pour la soirée, la première soirée des jeudis juin. Et c'est Principe Actif qui officiera. Pas moins de 6 DJ de la radio viendront successivement vous proposer leur sélection. De quoi passer une bonne soirée, bien entendu. Venez nous rejoindre, on pourra discuter, papoter, écouter de la bonne musique. Celle qu'on n'entend pas ailleurs, bien entendu. C'est une sélection très fine de nos animateurs qui vous réjouira les oreilles. Et puis venez vous réjouir les papilles et boire un coup avec nous, bien entendu, car restauration et bar seront de la fête également. Vous pourrez également nous trouver sur un petit stand, un petit endroit pour discuter radio, pour discuter de ce que nous faisons, nous rejoindre éventuellement. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est ce soir, ça se passe sur le deck du Cube à Évreux. Ça va mixer, ça va danser, ça va, je ne sais pas moi, vous verrez bien, vous n'avez qu'à venir avec ce que vous êtes, et puis ce sera exactement ce que vous êtes. Ce soir, au deck du Cube, venez rejoindre Principe Actif, c'est gratuit, et on vous y attend. Nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et puis restez à l'écoute de nos programmes, parce qu'il y a une seule raison, hein, ils sont cool.
Écoutez RFI, il est 10h à Kiev, 9h à Paris.
RFI matin.
Et 7h en temps universel. Martin Guez, journée porte ouverte pour l'Ukraine.
Qui voit celle de l'Union Européenne enfin déverrouillée. C'est très loin d'être fait pour une adhésion pleine et complète dans l'Union Européenne. Les 27 ne sont pas encore 28, mais l'UE a acté un premier pas à l'intégration de l'Ukraine. C'est une première étape symbolique dans un moment d'extrême tension militaire et d'échange de tirs meurtriers avec la Russie. Des frappes israéliennes à nouveau signalées ce matin dans le sud du Liban, et ce au lendemain d'un nouvel accord de cessez-le-feu. Une trêve qui s'écrit cependant au conditionnel, soumise à la récompense complet des tirs du Hezbollah qui s'oppose frontalement à toute négociation avec Israël. Un mini-Israël, justement, dans le nord de l'Inde, où d'innombrables soldats de l'État hébreu élisent domicile. Mais que viennent-ils donc faire là? Réponse dans un instant avec Nicolas Roca. Et puis enfin, la pêche au calamar qui vire au cauchemar, selon le dernier rapport d'une ONG. Tandis que coqs et éléphants se prennent à rêver, la France et la Côte d'Ivoire qui s'affrontent ce soir à une semaine du mondial de foot aux États-Unis.
L'escalade de la guerre en Ukraine inquiète les États-Unis au moment où l'Union européenne ouvre la porte.
Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, se dit inquiet alors que Kiev intensifie sa riposte. Cette nuit, une frappe ukrainienne a fait 3 morts en Crimée annexée, alors que Bruxelles a ouvert la voie à la reprise formelle des négociations d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie. Adhésion jusqu'ici bloquée par le veto hongrois de Viktor Orban. Sauf que le Premier ministre hongrois a dû céder sa place à Péter Madiar, ce qui change absolument tout. Bonjour Pierre Benazé.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Ce feu vert est un tout petit pas sur le long chemin d'une possible adhésion, mais une étape symbolique importante.
Oui, effectivement, c'est un processus ouvert pour la négociation d'un groupe de chapitres de négociation avec l'Ukraine. Et encore, c'est pas formalisé. La Moldavie, en revanche, est aussi concernée puisque sa candidature d'adhésion à l'UE est strictement liée à celle de l'Ukraine. La décision, elle a été prise par les 27 ambassadeurs de l'Union à Bruxelles, mais en réalité, c'est une conséquence directe de la levée du veto hongrois. Plus tôt dans la journée hier, le gouvernement du nouveau Premier ministre Péter Modiol annonçait un accord avec le gouvernement ukrainien pour la protection des droits de la minorité hongroise de Transcarpathie, c'est l'oblast le plus occidental de l'Ukraine. Depuis l'invasion russe de 2022, Viktor Orban avait fait du sort de cette minorité un cheval de bataille, un prétexte pour mettre son veto à la candidature ukrainienne. Le gouvernement de Péter Modiol veut en outre donner des gages à l'Union qui lui a promis le dégel de 16 milliards d'euros de fonds européens vendredi. Alors, mis à part l'ouverture d'une conférence intergouvernementale en juin 2025, rien n'avait progressé dans cette candidature d'adhésion de l'Ukraine ouverte il y a 4 ans et qui désormais redémarre.
Merci beaucoup Pierre Benazé, en direct de Bruxelles sur RFI. Le patron de l'OTAN, Mark Rutte, était lui hier à Kiev où il a réaffirmé le soutien de l'Alliance à l'Ukraine. Il a estimé que la Russie était, elle, de plus en plus désespérée face à l'Ukraine. Déclaration faite aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et puis l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, proche de Vladimir Poutine, était lui en visite à Moscou. Et comme l'a confirmé le Kremlin, lui qui est régulièrement cité par la Russie comme un potentiel représentant de l'Europe lors de futures discussions, hypothèse jusqu'ici catégoriquement rejetée par Bruxelles.
Un nouveau cessez-le-feu conclu hier à Washington entre Israël et le Liban, mais sans effet pour l'instant sur le terrain.
Alors que les bombardements israéliens ont encore fait 10 morts ce mercredi au Liban et que les médias libanais rapportent de nouvelles frappes de l'État hébreu ce matin, Israël de son côté rapporte des alertes anti-aériennes dans le nord du pays, à proximité de la frontière libanaise. Ce nouveau cessez-le-feu ne paraît pas plus solide que le premier, conclu le 17 avril dernier. Une nouvelle trêve qui prévoit des zones pilotes sous contrôle de l'armée libanaise et qui conditionne, dans un communiqué commun d'Israël, des États-Unis et du Liban, l'arrêt des combats à un retrait du Hezbollah du sud du Liban. Et ce alors que le mouvement chiite pro-iranien s'est toujours opposé à ces négociations directes. Vincent Sorio.
Les conditions sont strictes et soulignées dès l'entame du communiqué. Il n'y aura de cessez-le-feu que si le Hezbollah cesse ses tirs de roquettes et qu'il évacue la zone occupée par l'armée israélienne au sud du fleuve Litani. Le Liban rappelle ses fondamentaux, respect des frontières, cessation des hostilités, intégrité territoriale. Il obtient pour ce faire la création prochaine de zones pilotes placées sous le contrôle exclusif des forces armées libanaises. Forces libanaises que les États-Unis s'engagent à soutenir afin d'améliorer leur capacité. Israël, pour sa part, maintient son principal objectif, obtenir le désarmement du Hezbollah et le démantèlement de ses infrastructures sur l'ensemble du territoire libanais. Les deux parties répètent qu'elles n'ont pas d'intention hostile l'une envers l'autre et conviennent d'un nouveau chapitre de négociations politiques et sécuritaires prévu le 22 juin à Washington afin de parvenir à un accord définitif. Vincent Souriau, Washington RFI.
Et ce matin, Itamar Ben-Gvir, le ministre israélien de la Sécurité nationale, a lui qualifié le cessez-le-feu au Liban de grave erreur. Israël, par ailleurs, qui poursuit ses frappes à Gaza. Au moins 8 Palestiniens sont morts ce matin dans l'enclave après des bombardements de l'État hébreu.
L'armée israélienne présente au Liban, à Gaza, mais aussi en Inde, sur ce qu'on appelle la route du Houmous.
Oui, c'est presque un rite de passage. Andréane, le nord de l'Inde, de vos sanctuaires pour les soldats israéliens qui ont terminé leur service militaire et qui mettent quasiment systématiquement le cap vers l'État de l'Himachal Pradesh, région montagneuse proche de la frontière avec le Tibet. Une nouvelle habitude qui ne passe pas vraiment auprès des populations locales. Bonjour Nicolas Roca.
Bonjour.
Nicolas, il y a tellement de soldats israéliens dans certains villages qu'ils sont carrément surnommés mini-Israël en Inde. Oui, c'est le cas de Dharamkot où s'est installée Nidhi, une Indienne venue ouvrir un café.
D'abord, la plupart des gens que tu croises sont des Israéliens. Il y a des cafés avec des menus entièrement en hébreu, des magasins avec des drapeaux israéliens. Mon expérience personnelle est qu'ils occupent culturellement le lieu.
Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos montrent l'omniprésence d'Israéliens, une opportunité économique pour les locaux qui accueillent des anciens soldats en quête de repos.
Autour de la ville de Kassot, il y a beaucoup de rêves partis, mais dans notre village, c'était plutôt le côté spirituel, avec des cours de yoga, de méditation, etc.
Il y a également de nombreux centres pour la communauté et même des organisations afin de soigner les soldats israéliens atteints de stress post-traumatique. Nous les avons contactés sans réponse.
Mais enfin Nicolas, que viennent donc faire des soldats israéliens dans cette région fort reculée? Pourquoi ont-ils choisi l'Inde?
Car cet ami d'Israël est presque devenu un refuge dans de nombreux autres pays. Les exactions de l'armée israélienne ont fait grimper l'hostilité vis-à-vis de ses soldats. Certains ont même été arrêtés pour crimes de guerre.
Et en Inde, cette cohabitation est longtemps restée cordiale et en apparence assez paisible.
Oui, jusqu'à ce que l'anéantissement de Gaza, les attaques sur l'Iran, le Liban ont rendu la présence de ces soldats difficile à supporter pour certains, comme Nidhi, qui a décidé de marquer son désaccord.
J'ai mis un poster où il était écrit « Personne n'est libre tant que la Palestine n'est pas libre ». Alors, ils ont boycotté le magasin et ensuite ils ont menacé de le fermer. Ils m'ont dit « Si tu n'enlèves pas l'affiche, je prendrai des photos et je les mettrai sur les groupes WhatsApp israéliens et je ferai en sorte que personne ne vienne dans ton magasin ». Accusée de faire l'apologie du terrorisme.
Elle a également voulu organiser une mobilisation en mémoire des enfants morts à Gaza et a fini par renoncer sous la pression de ses amis indiens.
Car on peut le dire, Nicolas, en Inde, critiquer Israël pose problème.
Oui, et une créatrice de contenu, Shristi Khanna, et son compagnon l'ont appris à leur
départ.
Dans cette vidéo publiée sur Instagram, il dénonce la présence de soldats israéliens dans le pays, venus après avoir, je cite, tué des enfants à Gaza.
Ça a été repris par la droite indienne, les suprémacistes hindous qui sont très pro-Israël, et ils nous ont accusés de vouloir inciter à la violence contre les juifs. C'est devenu un problème quand nous avons été victimes de fuites de données, de harcèlement au travail. J'ai failli perdre mon emploi et de nombreuses fausses informations sur moi ont été diffusées.
Face à la vague de cyberharcèlement, Shristi Khanna a lancé des procédures judiciaires.
La police s'est présentée chez nous, on nous a posé des questions, on nous a interrogés pendant des heures. Le but était simplement de nous demander qui nous finançait, pourquoi nous faisions cela et s'il s'agissait de propagande ou si nous avions des liens avec des groupes terroristes en Palestine.
Elle estime que les liens idéologiques entre l'extrême droite hindoue anti-musulman au pouvoir et la droite israélienne a rendu toute critique dangereuse en Inde.
Merci beaucoup Nicolas Roca, vous signez ce matin notre dossier de la rédaction. Un dossier complet à lire dans la longueur sur le site internet de RFI, RFI.fr.
RFI 10h09 à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie et siège de l'Union africaine.
L'UA qui était en mission d'observation en Éthiopie durant les élections législatives. L'Union africaine qui a rendu ses premières conclusions. Le chef de cette mission n'est autre que l'ancien président kényan, Uhuru Kenyatta, qui a regretté le manque de pluralisme du scrutin en Éthiopie alors qu'une partie de l'opposition a boycotté le vote. Un vote qui n'a pas pu avoir lieu dans toutes les régions du pays à cause de la situation sécuritaire. À Addis Abeba, correspondance de Marlène Panara.
Plus de pluralisme, c'est l'une des recommandations majeures d'Uhuru Kenyatta au gouvernement éthiopien. Ces derniers mois, des voix critiques ont en effet dénoncé une élection acquise au Premier ministre Abiy Ahmed au pouvoir depuis 2018.
Des efforts devraient être déployés pour créer un environnement favorable au pluralisme et favoriser l'intégration des divers groupes au sein du processus politique et de gouvernance nationale. Et afin de consolider davantage la démocratie, la mission encourage le gouvernement éthiopien et toutes les parties prenantes à promouvoir un dialogue politique inclusif et régulier.
Dans un second temps, le chef de la mission d'observation a regretté l'absence de scrutin au Tigré. Il est aussi revenu sur la suspension des élections dans certaines parties de la région.
Second night, I'm out done.
cadre des Jeux 10 juin. Principe Actif est mis à l'honneur pour la seconde année consécutive. 5 de vos émissions préférées et leurs animateurs s'emparent des platines le jeudi 4 juin à partir de 18h30 au Cube à Évreux pour une sélection musicale riche, variée, détonnante. Rejoignez-nous pour un moment partagé, convivial et festif. Le tout en totale gratuité. Bar et food sur site.
La musique a une importance capitale. Une chanson plaît surtout en fonction de sa musique.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4 dans le sud de l'Eure 95.9.
Par le truchement de la musique, on apporte dans l'oreille des gens ce qui habituellement ne devrait pas y être admis, n'est-ce pas ? C'est un truc, c'est ce qu'on appelle de l'art.
Principe Actif, le mix des cultures.
Sinei sola ni kanaki ni ngena ni tunaye le saimuna uti hamish ai bebe itini so na iada ikololo ite ibini so eit unei namuz chona khle kapamune iya soa Minha amiga, onde aí a ser?
Nos esperanzas